Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la géopolitique de l'ours polaire. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage coécrit par nos deux invités en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Poitiers. Farid Benamou, docteur d'AgroParisTech, professeur de géographie en classe préparatoire aux grandes écoles à Poitiers, chercheur associé au laboratoire ruralité de l'Université de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio, Rémi Marion, expert scientifique, spécialiste des régions polaires et consultant pour l'association Pôle Action. Bonjour.
Bonjour.
Victime de la fonte des glaces qui menace son habitat, l'ours blanc a été érigé depuis quelques années en emblème de la lutte contre le réchauffement climatique. Le voir aujourd'hui comme un animal géopolitique peut surprendre. Le nier serait oublier qu'il partage des territoires avec des sociétés humaines autochtones et non autochtones et qu'il pose des questions de cohabitation et de sécurité publique dans certains cas, dans d'autres des problèmes de cadre identitaire et de subsistance. Espèce protégée, elle fait parfois l'objet de tensions fortes opposant partisans de l'exploitation de l'Arctique et de l'ours polaire et protecteurs du plantigrade. Son destin est intimement lié à celui de l'Arctique, théâtre de grands enjeux internationaux, contrôle territorial, ressources pétrolières et minières, passages stratégiques et routes commerciales, changement climatique, l'ours polaire, un animal géopolitique qui se trouve ballotté entre les rôles de victime, de façade ou d'étendard. Alors, géopolitique de l'ours polaire, il fallait quand même oser, et vous l'avez fait, Farid Benamou.
Oui, tout à fait. Alors pourquoi géopolitique de l'ours polaire ? Eh bien, tout simplement parce que si on considère que la géopolitique, c'est l'étude des rivalités de pouvoir au sujet des territoires, eh bien, on s'aperçoit que l'ours polaire est particulièrement impliqué dans un certain nombre de rivalités, tensions et conflits, et ce, à différentes échelles. À l'échelle internationale, évidemment, puisque c'est une espèce qui a un statut de protection internationale, mais qui est sur un territoire où les enjeux sont internationaux, puisque on a quand même 5 grands pays qui se partagent la souveraineté sur ce territoire, le Danemark via le Groenland, les États-Unis, le Canada, la Russie et la Norvège. Et disons qu'il y a parfois des tensions feutrées impliquant cette espèce d'exploitation des ressources. Mais on a également aussi des tensions à d'autres échelles, notamment au niveau local, non sans écho avec l'international également, concernant l'exploitation, la chasse à l'ours polaire, puisqu'on a un certain nombre de communautés locales, principalement au Canada et au Groenland, qui ont la possibilité de chasser l'ours polaire.
Alors, on va démarrer sur les tensions au niveau local. On partira ensuite sur le niveau international. Rémi Marion, l'ours polaire est un animal protégé. Certains estiment, parce qu'il a une protection, mais qui n'est pas la protection la plus forte. Alors, il y a tout un certain nombre d'enjeux, notamment au niveau du Canada, qui s'oppose à d'autres pays. Quels sont les enjeux ?
Les enjeux, en fait, ce qui s'est passé en particulier, on va reprendre un petit peu l'historique de 2013. En 2013, il y a eu une réunion de la CITES, donc qui est la Convention internationale pour le trafic des espèces. Et là, il y a eu un gros conflit, je dirais, entre, d'une part, les États-Unis et la Russie, étonnamment, qui se sont alliés, et en particulier contre le Canada. Alors, évidemment, l'ours polaire n'était qu'une façade dans cette histoire, sachant que ce qui oppose les États-Unis et le Canada en particulier, eh bien, c'est le passage du Nord-Ouest, donc cette fameuse route qui traverse l'Arctique canadien et que les Américains verraient bien ouvrir à la circulation maritime mais de façon internationale et relativement libre. Donc je dirais un petit peu pour embêter le gouvernement Harper de l'époque, eh bien le gouvernement Obama est venu mettre un petit caillou dans la chaussure avec l'ours polaire et en demandant donc le passage à un niveau supérieur de protection de l'ours polaire, ce qui évidemment posait un problème au Canada pour les autochtones. Et donc, évidemment, un problème au gouvernement canadien, au gouvernement fédéral, par rapport à ces populations autochtones, dont ils ont besoin aussi pour la souveraineté du pays au nord du Canada. Donc, il y a tout ce jeu, je dirais, autour de l'espèce qui n'a rien à voir, en fait, a priori avec l'espèce dans un premier temps, mais c'est plutôt un conflit comme ça pour des enjeux internationaux et de circulation et d'économie aussi.
Alors, la question des autochtones, je me tourne vers vous, Farid Benamou. Là, nous parlons des Inuits, et autres populations qui côtoient l'ours polaire, qui en ont besoin, d'où cette décision du Canada de camper sur sa position.
Oui, parce que en fait, il faut bien voir que alors dans les différentes communautés inuites, l'ours polaire, alors en plus joue un rôle qui est devenu particulièrement identitaire. Par le passé, il avait aussi une place, et toujours encore aujourd'hui, une place spirituelle très importante. Hein, c'est le Nanook en langue Inuktitut, la langue des Inuits. Et en fait, cet ours polaire, notamment dans des secteurs très très rudes, est un élément de subsistance important. Il faut bien savoir que dans beaucoup de ces communautés qui sont très 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 au nord, la chasse est le seul moyen de subsistance autonome, si vous voulez, si on ne veut pas passer par des subsides publics dans ces territoires. Et dans les communautés les plus au nord, hein, je pense notamment à Grisfjord ou Resolute, eh bien, il faut bien voir aussi que cette chasse a été développée parce que ces communautés ont été déportées artificiellement par le gouvernement d'Ottawa dans les années 50, justement, comme l'a dit Rémi, pour servir en véritable borne vivante. Et du coup, ces Inuits qui se sont retrouvés avec beaucoup plus de nuits, avec des conditions encore plus froides et encore plus rudes, eh bien, ont davantage dû chasser, et notamment entre autres l'ours polaire. C'est pour ça que cette chasse, elle est vraiment fondamentale. Alors certes, le gouvernement d'Ottawa a fait amende honorable depuis, a versé des indemnisations au titre du préjudice, mais entre-temps, ces communautés, elles vivent toujours sur place et elles ont donc un mode de vie qu'elles ont développé. Et donc, pour elles, la chasse à l'ours polaire est un élément de survie important. Et donc, si vous voulez, on a une espèce de troc ou d'échange alors gagnant-gagnant entre le gouvernement fédéral et ses communautés locales.
En tout cas, donc on l'a bien compris. D'une certaine manière, le Canada, pour se faire pardonner ces déportations d'Inuits que vous évoquiez à l'instant, Farid Benhamou, souhaite protéger sa population autochtone de façon à la stabiliser. C'est cela dont il est question, Rémi Marion.
Oui, il y a ça. Et puis aussi, actuellement, donc avec toutes les tensions réelles et les tensions fantasmées aussi, parce qu'il y en a aussi beaucoup dans ces régions-là, eh bien, avoir des populations autochtones dans des régions où il y a très très peu d'habitants, eh bien c'est très très important. Essayer aussi de maintenir cette culture, c'est aussi très important. On le voit aussi avec le nouveau gouvernement canadien qui insiste beaucoup sur l'importance des autochtones. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Donc ils ont absolument besoin, ces grands pays, surtout que le Canada avait quand même un peu perdu pied quelque part dans ces grandes régions arctiques du nord du Canada. A perdu pied parce qu'il n'y a aucune base, il n'y a aucun port en eau profonde, il y a très peu de bateaux qui peuvent y aller. Donc on a absolument besoin de ces populations.
Je peux ajouter quelque chose ?
Oui,
Farid
Benhamou.
Justement, pour continuer aussi dans ce sens-là, au niveau de la chasse, en fait, il faut bien voir aussi que cette chasse à l'ours polaire, notamment dans sa dimension commerciale, c'est-à-dire le fait que les Inuits ont la possibilité non seulement de chasser l'ours polaire, mais aussi d'accorder leur droit de chasse à des extérieurs. Notamment, alors en général, des personnes fortunées de pays occidentaux ou d'Asie. Donc, à partir des années 80, en fait, les Inuits ont vu leurs ressources de chasse beaucoup diminuer à cause de la diminution de la chasse aux phoques, en fait. Vous avez sûrement entendu parler dans les années 70-80 d'une grande campagne contre la chasse aux phoques et qui a débouché sur l'interdiction de l'importation de produits de la chasse aux phoques. Alors, en effet, il est vrai qu'il y avait un certain nombre de dérives, une chasse industrielle qui pouvait être parfois assez spectaculaire, mais on oubliait aussi qu'il y avait une chasse autochtone qui représentait donc des subsides locaux, aussi bien au Groenland qu'au Canada. Et en fait, cette décision, elle a eu comme conséquence, et ça, je pense que beaucoup d'ONG écologistes ne l'ont pas pris en compte, de véritablement provoquer un effondrement des ressources économiques de ces communautés autochtones. Et donc, pour pallier cela, le gouvernement fédéral canadien a encouragé les communautés locales autochtones inuites à vendre une partie de leurs droits de chasse, histoire de faire rentrer de l'argent frais dans ces communautés. Donc, paradoxalement, en fait, la diminution de la chasse aux phoques a renforcer la chasse à l'ours polaire. Et bon, il faut bien voir aussi que, cependant, le gouvernement canadien a mis des conditions assez drastiques, hein, qui encadrent particulièrement cette chasse, notamment avec ses intervenants étrangers. C'est-à-dire que, alors que les Inuits, eux, ont la possibilité de chasser l'ours polaire avec des motoneiges, cette chasse qui fait venir des intervenants extérieurs étrangers, eh bien, doit impérativement se faire avec un traîneau à chien et avec des guides inuits compétents. Et ça a un effet aussi sur, on va dire, la défense culturelle et identitaire des Inuits, parce que, d'une part, ça les maintient sur le territoire, ça les encourage à garder la connaissance de ce milieu qui est extrêmement difficile et très dangereux. Hein, si vous voulez, connaître la banquise, c'est vraiment un savoir-faire très particulier. Et il est vrai que quand on sédentarise les Inuits et quand ils s'acculturent, eh bien, ils finissent par être coupés de leur propre territoire. Et disons que cette chasse, elle peut avoir, et ça c'est quelque chose d'assez sous-estimé, cette chasse, elle peut avoir cet effet-là.
On est là sur, Rémi Marion, si j'ai bien compris ce que nous a dit et développé Farid Benhamou, sur du business touristique, d'une certaine manière.
Oui, mais je dirais pourquoi pas, parce que le problème, c'est que les populations inuites, depuis maintenant peut-être 5 siècles, sont ballottées avec l'avidité des pays occidentaux qui viennent régulièrement exploiter les régions arctiques. Hein, parce que là, on découvre l'Arctique comme un Eldorado minier, pétrolier, mais il faut savoir qu'à des périodes précédentes, eh bien, il y a déjà eu des vagues, je dirais, d'exploitation de l'Arctique, en particulier autour des baleines, il y a déjà presque 5 siècles, qui ont aussi amené à des conflits, même d'ailleurs entre les pays occidentaux sur place, mais qui ont aussi modifié le mode de vie des Inuits. Et donc, les Inuits sont ballottés avec toutes ces modifications qui sont complètement extérieures à leur culture habituelle, et on leur demande à chaque fois de changer de mode de vie. Comme ça, de façon régulière, avant, les Inuits chassaient beaucoup les baleines, on a détruit toutes les baleines, mais ils se sont mis à beaucoup chasser le phoque. Et puis, à partir des années 70-80, on leur a dit, non, c'est pas bien de chasser le phoque, parce que c'est pas propre, c'est pas beau. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que quand on vit dans un village inuit, au bout de la rue, il y a la banquise. Donc, c'est assez facile quand on est au chaud en Europe,
de
décider pour les autres. Et ça, c'est tout à fait insupportable, et ça devient aussi de plus en plus insupportable pour ces populations.
Vous écoutez RFI.
RFI.
Géopolitique.
Marie-France Chatin.
Alors, le lien, évidemment, entre réchauffement climatique, ours polaire et banquise, on le comprend bien. Je l'évoquais en introduction de cette émission. Réchauffement climatique, ça veut dire moins de banquises, d'où moins de territoire pour l'ours polaire. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que l'on sait du nombre d'ours polaires aujourd'hui en Arctique? Et finalement, est-ce que l'espèce est, comme on le dit, menacée, Farid Benhamou?
Eh bien, disons que là, on vient de recevoir un certain nombre d'estimations, et je pense que Rémi pourra aussi particulièrement compléter à ce niveau-là. Les effectifs, jusqu'il y a à peu près une quinzaine de jours, étaient estimés par le PBSG, hein, le groupe de spécialistes de l'ours polaire au sein de l'IUCN, qui est cette grande organisation qui s'occupe des espèces en danger. Eh bien, les effectifs estimés étaient jusqu'à une quinzaine de jours de 20 à 25 000 ours polaires, et il y avait une estimation de déclin de la population de 30% d'ici à l'horizon 2050. Les derniers chiffres, en fait, confirment ce risque de déclin de population d'ours polaires de 30% d'ici à 2050. Avec petite parenthèse, ça ne veut pas dire que, contrairement aux idées reçues, l'ours polaire va totalement disparaître. Mmh. Hein, attention, hein, parce que très souvent dans les médias, attention, je ne dis pas qu'il n'y a aucune menace qui pèse sur l'espèce, mais très souvent, on a tendance à très noircir le tableau de la situation de l'ours polaire. Donc, cette baisse de 30% est en effet confirmée d'ici une quarantaine d'années, mais la fourchette qui est donnée, elle est supérieure. On est à 22 000 à 31 000, et ça signifie une chose, c'est qu'il y a aussi énormément de choses que l'on ne connaît pas. Il existe 19 sous-populations d'ours polaires, certaines sont très bien connues, notamment les canadiennes, alors que d'autres sont beaucoup moins bien connues ou sont en cours d'amélioration, si vous voulez, de la connaissance. Mais là, je pense que Rémi aurait 2-3 petites choses à ajouter à ce niveau-là.
Rémi Marion.
Oui, donc tout à fait. C'est vrai que ce sont des informations très, très importantes. C'est difficile de compter les ours, en fait. Hein.
Le chiffre est établi de quelle manière? C'est un peu la question qui peut se poser aussi.
Oui, alors c'est fait, donc, comme le disait Farid, il y a 19 sous-populations. Sur ces 19, il y en a 8 ou 9 dont on a très, très peu d'informations, voire pas d'informations du tout, en particulier du côté russe et sur la côte est du Groenland. Donc c'est très difficile à estimer. Maintenant, certains pays comme le Canada, qui a quand même presque des 2/3 de la population d'ours polaires sur son territoire, fait beaucoup d'efforts pour rechercher et compter ces fameux ours polaires. Et donc grâce à ces comptages qui sont faits par avion, par pose de collier et reprise d'individus, avec des recherches génétiques également sur des poils qui sont récupérés, eh bien on arrive à affiner les comptages, et c'est pour ça que la fourchette qui était une fourchette déjà très très ancienne, qui avait au moins une dizaine d'années, eh bien, a évolué vers un point médian qui est aux alentours de 26 000 individus. Et donc, c'est pour ça que quand on lit dans certains médias ou les communiqués de presse de certaines associations, l'espèce est de plus en plus menacée, eh bien, on noircit le tableau. Et par contre, les menaces sont bien là. L'ours polaire est effectivement menacé par le réchauffement climatique. Mais ça ne sert à rien de noircir le tableau parce que, en fait, après, on va prêter le flanc aux climato-sceptiques et à tous les gens qui doutent encore ou qui essayent de douter du réchauffement climatique si on donne des informations qui sont fausses ou exagérées. Et donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup à donner les informations les plus scientifiquement avérées, quoi.
On reparlera des médias peut-être dans la deuxième partie de l'émission. Alors on noircit le tableau. Il n'empêche que évidemment si les glaces qui sont leur terrain, hein, aux ours, leur habitat, leur lieu de vie, comme on le dit, pourraient disparaître totalement à l'horizon 2050, une période de 5 mois ou plus sans glace entraînerait un jeûne dans le sens d'absence de nourriture prolongée pour l'espèce, ce qui est susceptible, d'après ce que j'ai compris, de causer des problèmes d'infertilité accrue ou de famine. En tout cas, donc, l'ours qui va chasser, qui a besoin de la banquise pour chasser, se retrouverait, Farid Benhamou, dans des situations compliquées, ce qui voudrait dire aussi qu'il irait explorer d'autres territoires, peut-être aussi pour se rapprocher de l'homme. Et là, danger, enfin, je ne sais pas. Dites-nous, Farid Benhamou.
Oui. Alors oui, c'est vrai que l'ours polaire est particulièrement lié à la banquise parce que comme il se nourrit de phoques et qu'il arrive à chasser les phoques sur la banquise, il y est particulièrement lié. Donc là, c'est vrai qu'il y a de véritables inquiétudes légitimes. Cependant, en effet, on s'aperçoit que l'ours polaire a un certain nombre de potentiels en raison de comportements opportunistes. Déjà, d'une part, il y a des études récentes qui viennent de montrer que... On pensait qu'en dessous d'une certaine surface de banquise, l'ours polaire était incapable de se nourrir. Et là, on s'est rendu compte que, eh bien, même en dessous de ce seuil qui était jugé critique, eh bien, il est toujours capable de se nourrir sur cette banquise-là. Par ailleurs, on a constaté des comportements, alors pas forcément nouveaux, mais comme il y avait moins de pression d'observation, on les avait moins avérés. On a découvert que des ours polaires pouvaient faire des razzias dans des nichées d'oiseaux, qu'ils pouvaient se nourrir en partie d'algues, qu'ils pouvaient même pêcher du poisson. Là, cet été, Rémi Marion a été dans une expédition, ils ont réussi à filmer au fin fond du Labrador, où il n'y a jamais personne qui va. Il a réussi à filmer des images totalement inédites d'ours polaires en train de pêcher du poisson. Donc, l'ours polaire, qui en effet risque de connaître de sérieuses difficultés, n'est peut-être pas non plus l'animal qui va le plus pâtir de ces changements climatiques. Parce que vous avez d'autres espèces qui sont inféodés à la banquise et à ces milieux arctiques, peut-être davantage. Hein. Je pense notamment aux fameux oiseaux migrateurs. Vous avez beaucoup d'oiseaux migrateurs qui sont particulièrement adaptés donc à l'Arctique, ou même vous avez des espaces de cétacés comme le narval, ou même les morses, qui eux sont vraiment très 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 intimement liés et qui ont, si vous voulez, un peu moins de plasticité écologique que peut en avoir l'ours polaire. Alors bien sûr, hein, il ne s'agit pas de nier toutes les menaces qui pèsent sur l'ours polaire, mais disons qu'on peut en partie les relativiser.
Alors Rémi Marion, ce que l'on a compris, c'est finalement une énorme capacité d'adaptation de l'ours polaire à son environnement et capable aussi de changer de mode alimentaire.
Oui, le problème du réchauffement actuel, c'est sa rapidité. Hein, et donc ce réchauffement d'origine anthropique, évidemment, change la donne et très très vite dans l'Arctique. Il faut savoir que le réchauffement dans l'Arctique est 2 fois supérieur à ce que l'on connaît chez nous, avec des espèces qui sont très adaptées, qui sont presque des cul-de-sac évolutifs, c'est-à-dire qu'ils ont joué tous leurs atouts pour pouvoir s'adapter à ces régions-là. Donc évidemment, ce qui les fragilise. Et comme le disait Farid, l'ours polaire a peut-être des capacités d'adaptation parce qu'il est opportuniste. Il est aussi un proche cousin de l'ours brun.
Que l'on trouve
juste au sud et parfois même sur des territoires...
Et de plus en plus au nord.
Ouais. Et de plus en plus au nord et parfois sur des territoires qu'il partage. Donc ce qui fait que ça donne justement cette plasticité peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a des espèces qui n'auront pas la capacité de s'adapter et qui sont moins emblématiques. Et c'est pour ça qu'il faut parler d'ours polaire, c'est très très important et ça a été justement le sujet de notre ouvrage, mais qui permet aussi d'ouvrir d'autres portes vers d'autres espèces. Peut-être le renard polaire, par exemple, qui voit son territoire complètement envahi dans certains endroits par le renard roux, celui qui vit chez nous. Et le renard roux, eh bien, c'est le double de taille d'un renard polaire. Il est beaucoup plus efficace dans ses chasses et peut détruire aussi les renards polaires, dont on parlera beaucoup moins que l'ours polaire. Et donc, il faut vraiment que l'ours polaire ne soit pas l'arbre qui cache la forêt, mais au contraire, que ce soit la clé pour pouvoir parler de toutes ces problématiques.
Alors vous qui avez beaucoup photographié les ours polaires, je reprendrai la deuxième partie de l'émission avec vos émotions, Rémi Marion, sur un ours polaire, quand on se trouve face à lui, qu'est-ce qui se passe ? Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Rémi Marion et Farid Benhamou, dans quelques instants. À tout de suite.
Thank you.
Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur l'ours polaire qui fait l'objet d'un ouvrage coécrit par nos deux invités en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Poitiers. Farid Benhamou, docteur d'agro-paritech, professeur de géographie en classe préparatoire aux grandes écoles à Poitiers et chercheur associé au laboratoire ruralité de l'université de Poitiers. Et Rémi Marion, expert scientifique, spécialiste des régions polaires et consultant pour l'association Pôle Action. Rémi Marion, vous êtes photographe, vidéaste. Dans l'ouvrage géopolitique de l'ours polaire, il y a quelques magnifiques photos d'ours polaires. Comment est-ce qu'on photographie un ours polaire et quelles sont les émotions ressenties face à cet animal aux proportions, somme toute, assez gigantesques ?
Alors en fait, moi, ça fait bientôt 30 ans que je photographie l'ours polaire et que maintenant je le filme surtout. J'ai toujours autant d'émotions, surtout que je cherche évidemment de plus en plus de comportements un peu différents, un peu étonnants. Donc évidemment, les émotions sont toujours là. C'est un animal, moi, qui m'a toujours séduit par son élégance, cette espèce de désinvolture à parcourir un monde extrême qui est la banquise, qui est la toundra. Donc c'est cette élégance vraiment, moi, qui m'a toujours fasciné, cette démarche tout à fait unique. J'ai beaucoup filmé, beaucoup observé des ours bruns aussi. Et même si j'ai beaucoup de tendresse pour l'ours brun, eh bien, il n'y a pas cette fascination pour cette élégance et cette démarche incroyable de l'ours.
De la majestuosité, d'une certaine manière aussi. Qu'est-ce que l'on sait de ses conditions de vie ?
Eh bien, en fait, c'est un animal donc qui est particulièrement bien adapté à ce milieu. Il n'a pas de territoire, l'ours polaire, donc ce qui l'oblige à sans cesse se déplacer, donc grâce à cette démarche tout à fait particulière, qui a été d'ailleurs très très bien étudiée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Une démarche qui est toujours à peu près à 4 km/h, mais sur n'importe quel substrat, pendant des jours et des jours. Et donc, on peut considérer qu'un ours polaire parcourt en tous sens la moitié de la superficie de la France en une année, parce qu'il chasse le phoque. Et le phoque, bien, il faut laisser guider par son odorat, trouver les bonnes zones de chasse, guider aussi par son expérience, parce qu'on s'aperçoit que les individus de plus en plus âgés, eh bien, ont un périmètre de chasse qui est beaucoup plus restreint. Donc, c'est vraiment un animal fascinant de vivre dans cet univers sans repère, en fait, et en général solitaire.
On le voit solitaire et il est vraiment solitaire. C'est pas simplement qu'on le prend en photo tout seul devant l'immensité blanche autour de lui, mais ce qui veut dire aussi que les femelles qui font naître des ours, qui mettent bas, comment ça se passe
Donc ce sont des familles monoparentales. Les femelles et les mâles se rencontrent pendant une petite semaine au mois de mai-juin, et puis le couple se sépare et la femelle va mettre au monde ses petits au mois de décembre dans une tanière. Les petits ne verront le jour, en fait, ne sortiront à l'air libre qu'au mois de mars, fin février, début mars, suivant les régions. Et les petits ont déjà presque 3 mois et ils sont passés du poids qui paraît assez ridicule, je dirais, de 800 grammes à la naissance, et ils pèsent 12 kilos quand ils ont 3 mois. Donc ils grandissent assez vite. Mais ils ont 2 ans d'éducation devant eux, parce que l'éducation pour devenir ours polaire est très très importante. Appréhender un milieu comme celui-là pour un grand prédateur, eh bien, c'est une éducation permanente de la femelle pour ses petits. Et j'ai pu le filmer, l'observer à maintes reprises. Eh bien, c'est vraiment, vraiment une éducation parfois très rude, d'ailleurs, hein. La femelle est obligée de menacer ses petits, de les gronder aussi, pour qu'ils apprennent à rester tranquilles, à la suivre, à se mettre à l'abri. Enfin, c'est toute vraiment une éducation très, très, très précise.
Farid Benhamou?
Oui, en effet. En plus, les femelles sont capables de jeûner pendant près de 8 mois, c'est-à-dire entre le moment où elles rentrent dans la tanière et le moment où elles vont chasser, rechasser à nouveau. Donc c'est au printemps, c'est en avril, parce que ça coïncide avec les naissances des petits de phoques. Tout ce laps de temps là qu'elles passent sans rien manger et en allaitant en même temps. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là que parfois les scientifiques ont pu avoir des inquiétudes, parce que les réserves de graisse des femelles sont très importantes, puisque ce sont ces réserves de graisse qui vont permettre aux femelles, d'une part, de pouvoir allaiter les petits et de supporter ce jeûne.
Alors, la population des ours polaires en Arctique, on l'a évoqué dans la première partie de l'émission, entre 20 et 25 000 ours. La chasse pour les Inuits, finalement, ce sont combien d'ours polaires qui disparaissent chaque année, Rémi Marion ? Et est-ce que il y a un équilibre entre les naissances et les disparitions d'une certaine manière ?
Oui, donc maintenant, la fourchette est passée donc de 22 000 à 31 000. On peut considérer qu'avec les quotas au Canada, il y a environ 400 à 500 ours polaires qui sont abattus chaque année. Et évidemment, le braconnage, eh bien, c'est un peu compliqué aussi d'évaluer ce qui se passe, en particulier en Russie. Et c'était un des prétextes que la Russie vraiment exposait en disant qu'il faut que le Canada arrête de chasser l'ours polaire, parce qu'il disait que on braconne en Russie grâce à la photocopie ou à la copie des certificats qui étaient donnés au Canada. Donc c'était le prétexte un petit peu, plutôt que d'aller nettoyer de chez eux du côté des braconniers. Mais il faut bien savoir aussi que les populations autochtones du nord de la Russie subissent aussi beaucoup les changements politiques, les changements économiques. Et donc l'ours polaire, eh bien, ça peut être le moyen aussi de faire bouillir la marmite, hein, quelquefois, de braconner un ours polaire. C'est pas pour le plaisir que l'on braconne l'ours polaire. C'est vraiment pour aller le vendre et pour aller essayer de gagner sa vie dans des conditions et dans des régions vraiment qui sont extrêmement difficiles à vivre. Donc il faut aussi faire très très attention à ça. En général, dans ces régions-là, c'est pas aux braconniers qu'il faut forcément jeter la pierre, parce que aussi bien en Afrique d'ailleurs, ce sont pas forcément les gens qui tuent les éléphants. Et eux, ils ont besoin de manger, ils ont besoin aussi de nourrir leurs enfants. Mais c'est peut-être aussi les gens qui organisent le commerce de tout ça, et c'est vers eux qu'il faut se tourner. Donc évidemment, braconner l'ours polaire, c'est aussi quelque chose d'assez qui peut être dangereux, et c'est vraiment poussé aussi par tous ces changements politiques et économiques du Grand Nord que ça peut arriver dans l'Arctique russe en particulier.
Alors pour aller plus loin que la simple question du braconnage, Farid Benhamou, l'ours polaire, il a été traqué finalement de tous les temps, hein, entre sa destruction par les baleiniers et les trappeurs. Il y a eu des abattages massifs dans le premier quart du XXe siècle, et on le sait moins. Les opérations militaires ont été particulièrement destructrices pour l'ours polaire.
Oui, alors c'est vrai, comme tout à l'heure Rémi l'évoquait, la présence, alors notamment on va dire d'occidentaux dans ces territoires arctiques, elle est ancienne, hein, elle est d'au moins 5 siècles, et dès que des pêcheurs accostaient pour la baleine par exemple, très souvent ils en profitaient pour éliminer des ours polaires. Le géographe de Planol rappelle dans son ouvrage Le paysage animal que les Russes, les chasseurs russes seraient responsables de l'élimination de 150 000 ours polaires entre le 17e et le 20e siècle. Donc voilà, on a du mal à trouver des chiffres, mais les quelques chiffres que l'on a sont assez spectaculaires. Et dans les conflits, il est vrai aussi que les ours ont pu être des victimes collatérales, puisque, alors notamment dans le cadre de la guerre froide, on a vu se multiplier un certain nombre de bases militaires ou des bases radars, notamment la fameuse Dew Line, qui était cette ligne de radar donc qui allait des îles Aléoutiennes, passant par l'Alaska, le Canada et le Groenland, qui servait à espionner donc le voisin soviétique, puisque je vous rappelle, comme vous le savez, que en fait l'Arctique était le plus court chemin entre le bloc de l'Ouest et le bloc soviétique. Donc il y avait ces bases là qui étaient installées, et donc il y avait des militaires dans ces bases qui s'ennuyaient très sérieusement. Alors certains parfois faisaient des cartons, ou bien même ils encourageaient aussi une chasse. C'est pour ça que vous avez même des communautés inuites qui se sont fixées parfois à côté de ces bases, tout simplement parce que il y avait une demande de trophées et de peaux d'ours que les militaires pouvaient ensuite ramener chez eux. Donc il y a eu en effet un certain nombre d'animaux comme ça qui ont été éliminés, sans compter également les dégâts environnementaux collatéraux liés à la présence de ces bases.
Vous écoutez RFI.
RFI. Géopolitique.
Marie-France Chatin.
Alors, pour aller plus loin, les dégâts environnementaux, Rémi Marion, pour ce qui est des menaces qui pèsent sur l'ours polaire, on a parlé de la chasse, on a parlé du braconnage, la pollution.
Oui, la pollution est importante, en particulier dans des endroits comme la mer de Barents, hein, donc cette zone qui est au nord de l'Europe, à l'est du Svalbard et en allant vers la Russie, vers l'archipel François-Joseph. C'est une zone qui a servi pendant de nombreuses années de réceptacle à tout un tas de produits polluants, et donc les ours polaires qui sont au sommet de cette pyramide alimentaire, eh bien cumulent en fait tous ces produits qui sont en général que l'on dit lipophiles, c'est-à-dire qui se fixent sur les graisses, comme les polychlorobiphényles, donc des produits organiques qui donc vont se transmettre dans les graisses sur toute la chaîne alimentaire. Les ours polaires, eh bien, récupèrent, je dirais, toute la forte dose au bout de cette chaîne. On sait que les ours polaires, dans certaines régions, ça a été très bien étudié au Svalbard et au Groenland en particulier, les ours polaires ont des forts taux de polluants. pour l'instant, aucune vraie pathologie n'est avérée par rapport à ces taux de polluants très importants. On a parlé d'occlusion utérine dans certains cas, de diminution de la fertilité. Enfin, c'est vrai que tout ça, c'était plus ou moins étudié, mais sans vraiment mettre en évidence de pathologie, pour l'instant du moins.
Farid Benhamou, 2016, verra la prochaine réunion de la CITES, hein, qui est donc la Convention internationale sur le commerce des espèces en danger. Elle se tiendra en Afrique du Sud. Quelque chose à en attendre ?
Ah oui, on verra, puisqu'en effet, cette CITES, donc qui gère le commerce et le trafic des espèces protégées, a été, comme on l'a dit tout à l'heure, un théâtre, on va dire, de tensions entre les États-Unis et la Russie, qui soutenaient certaines ONG écologistes pour faire passer donc l'espèce de l'annexe 2 qui autorise la chasse et le commerce à l'annexe 1 qui interdit tout commerce, donc comme on l'a dit, pour embêter le Canada. En 2013, ça a été très très tendu. Alors il y a eu un relatif apaisement d'après les dernières informations qu'on a pu avoir avec Rémi, mais il n'est pas exclu que certains États reviennent à la charge, et notamment certaines ONG, parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les ONG sont divisées aussi entre elles. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des ONG comme le WWF ou même Greenpeace, qui, elles, trouvent que ce statut en annexe 2 est tout à fait acceptable, alors que d'autres ONG, comme notamment la grosse ONG nord-américaine PBI, spécialisée, c'est-à-dire Polar Bear International, ou bien IFO, même si je crois qu'IFO a un petit peu évolué, qui est une ONG de protection des animaux, eux étaient pour une protection stricte et un passage en annexe 1. Et donc c'est intéressant de voir que aussi les ONG sont divisées à ce sujet-là. Alors leur motivation, pourquoi ils voulaient absolument, certaines ONG, le passage en annexe 1, une de leurs motivations, c'est de dire il faut absolument interdire toute chasse pour lutter contre le braconnage, comme l'a expliqué Rémi, puisqu'en effet, il y a de faux certificats canadiens qui circuleraient en Russie. Ce à quoi certaines ONG comme le WWF répondent, oui mais non, au contraire, on s'aperçoit que quand une espèce qui est chassée modérément devient intégralement protégrée dans différentes espèces, on s'aperçoit qu'au contraire, ça encourage le braconnage.
Rémi Marion, un commentaire. On l'avait évoqué hein, en première partie de l'émission, cette question de l'opposition entre États-Unis, Russie et Canada qui a besoin de protéger ses populations. Mais finalement, du bien fondé de ces réunions de la CITES, on se pose presque les questions, savoir est-ce que voilà, ça fait avancer le débat ou c'est juste l'occasion, c'est un terrain de conflit entre les uns et les autres.
Non, pas du tout. Je pense que c'est très très important. La CITES a montré aussi son efficacité dans certains cas. Le problème, c'est que, et on l'a vu d'ailleurs lors de notre dernier colloque que l'on organisait à l'UNESCO fin septembre, où on avait la chance d'avoir le porte-parole de la CITES avec nous, la CITES évolue aussi et maintenant voudrait tenir compte aussi de ce que cela pourrait générer aussi, par exemple, de protéger l'ours polaire intégralement pour les populations autochtones. Et veut maintenant aussi tenir compte de ces populations, que ce soit dans l'Arctique, mais aussi ailleurs, et que de protéger une espèce animale, c'est bien, mais on ne peut pas la protéger de façon péremptoire sans tenir compte des gens qui peuvent aussi en avoir besoin, des humains qui peuvent en avoir besoin pour leur survie, qui sont eux aussi confrontés aux problèmes de réchauffement climatique et à toutes ces modifications climatiques et autres. Donc la CITES, maintenant, tente de faire un pont, je dirais, entre les préoccupations des populations autochtones qui ont besoin de chasser et la protection des espèces. Et je pense que c'est une assez bonne avancée. Ouais.
Alors, pour aller plus loin, et pardon pour ceux que cette question pourra choquer, mais en tout cas, ça fait partie du débat. Pour ce qui est de la protection de l'ours polaire, certains scientifiques accréditent l'idée selon laquelle il faudrait capturer davantage de spécimens et utiliser les os comme banque génétique. Farid Benhamou.
Bah c'est scandaleux. Qu'est-ce que je vous dis, c'est scandaleux. Et ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que vous avez des scientifiques renommés comme Steve Amstrup, qui est membre du PBSG, c'est-à-dire vraiment le groupe de spécialistes international de l'ours polaire, qui cautionne ce type de solution. C'est-à-dire que en fait, ces personnes disent que oui, il faut recréer le milieu, les bonnes conditions de vie d'un ours polaire dans des eaux puisque en gros ils sont condamnés. Alors que le problème, ce n'est pas le sauvetage de l'espèce en tant que tel, même si c'est important, c'est le sauvetage du milieu qui est important. Alors ce qui pose aussi question, c'est que ce type de scientifiques sont en partenariat donc avec certaines associations internationales de zoos qui rétribuent particulièrement, notamment la grosse ONG PBI, Polar Bear International. Donc nous on trouve ça scandaleux. Au Maryland, là d'Antibes, il y avait toute une promotion justement des ours polaires. On a un communiqué qu'on reproduit intégralement dans notre ouvrage, qui est vraiment un monticule de même d'idiotie, en disant par exemple que pour se rapprocher des conditions naturelles de l'ours polaire, on a mis de l'eau à 14 degrés, comme si les ours polaires vivaient dans de l'eau à 14 degrés dans l'Arctique. Voilà, je pense que à ce niveau-là, c'est vraiment la fausse bonne idée et c'est même la vraie mauvaise idée.
En tout cas, Rémi Marion, ce qui est sûr, c'est que d'une certaine manière, l'ours polaire nous incite à nous interroger, nous, sur notre rapport à la Terre et à la nature, et voir l'Arctique comme un espace vivant.
Oui, tout à fait. Et c'est un espace vivant, mais qui n'est évidemment pas isolé du reste du monde. Donc, ça me paraît très compliqué de dire sauver l'Arctique. On va pas sauver l'Arctique. L'Arctique, il sera toujours sous les plus hautes latitudes de notre planète. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le réchauffement climatique, eh bien, il y a des perturbations sur l'ensemble du globe. Et il faut prendre vraiment l'ours polaire et l'Arctique au sens large comme des indicateurs, comme des laboratoires qui évoluent beaucoup plus vite que le reste du monde. Mais dire sauver l'Arctique, ça paraît tout à fait illusoire. Ce qu'il faut, c'est évidemment, on l'a vu avec la COP21, eh bien, c'est prendre des décisions pour changer de mode de consommation, des modes de développement, et ça paraît extrêmement important, et ça paraît être vraiment le moment maintenant, je dirais, pour prendre ces décisions et avoir l'Arctique comme point de mire, mais que ce soit pas sauver l'Arctique, ça me paraît vraiment toujours une hérésie d'entendre ce mot, parce que on va pas sauver l'Arctique, il faut sauver le climat de notre planète et puis sauver aussi peut-être un peu plus largement l'humanité. Oui.
Alors sauver l'Arctique, c'est aussi sauver l'ours polaire. C'est un animal symbole, en tout cas, Farid Benhamou, l'ours polaire. Rémi Marion l'évoquait rapidement dans la première partie de l'émission, je pense que c'est peut-être important aussi de s'y poser quelques instants encore sur la place de l'ours dans les médias, la communication en général et beaucoup de manipulation, voire de désinformation. Farid Benhamou.
Alors, parfois, malgré tout, ça peut être intéressant, puisque parfois, pour sensibiliser les gens, ils ont besoin d'accroches. Et c'est vrai que l'ours polaire, comme tous les grands carnivores et les grands animaux, sont souvent des accroches intéressantes. D'ailleurs, on le voit nous aussi avec le succès de notre livre, ça interpelle particulièrement. Donc ça peut être intéressant. Après, nous, ce que l'on critique particulièrement, c'est parfois les simplismes qui peuvent circuler, ou même parfois le côté un petit peu starification, quand on voit certaines stars qui, pour bien se faire voir, se font passer pour des protecteurs d'ours polaires. Vous savez, vous avez même Vladimir Poutine qui a utilisé l'image de l'ours. Vous avez une photographie très facile à trouver sur Internet où on le voit avec des scientifiques russes en train de poser un collier émetteur donc sur une ours. On voit bien que ce type
l'ours,
de dirigeant.
Juste précision pour nos auditeurs, il avait été anesthésié.
Oui, c'était un ours anesthésié, je crois Archipel François-Joseph, dans le cadre d'un programme scientifique. Mais il est vrai que Vladimir Poutine aime bien se mettre en avant aux côtés d'espèces emblématiques, comme notamment le tigre également, le tigre de Sibérie. Vous voyez, il va pas se mettre à côté d'une vague petite hermine, par exemple. Donc, on voit bien que c'est vrai que l'ours polaire est utilisé pour son image, et parfois avec des raccourcis et des simplifications.
Rémi Marion, en conclusion.
Oui, tout à fait. Je pense que l'ours polaire, c'est un animal magique. Moi, j'ai toujours la chance de l'observer fréquemment et c'est un animal sublime. Mais il faut vraiment l'utiliser comme clé. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, entre autres avec l'association pour l'action et puis au travers de notre livre, c'est de l'utiliser pour donner à penser et pas donner ce qu'il faut penser, pour ouvrir grand les yeux et les oreilles, pour ouvrir aussi un esprit critique pour que les choses avancent vraiment. Et aussi un petit peu sortir de l'émotionnel. L'ours polaire, évidemment, dégage de l'émotion, mais il faut aussi en sortir et voir les choses aussi de façon beaucoup plus pratique. Il faut que l'ours polaire, ce soit vraiment la clé qui nous fasse prendre conscience. C'est vraiment très, très important.
Merci. C'est la fin de Géopolitique, consacrée donc à la géopolitique de l'ours polaire, qui est le titre de votre ouvrage, Rémi Marion et Farid Benhamou, Paris aux éditions S. Je rappelle, Farid Benhamou, que vous étiez en duplex avec nous depuis les studios de nos conférences confrères de France Bleu Poitiers, que nous remercions, que vous êtes docteur d'agro-paritech, professeur de géographie en classe préparatoire aux grandes écoles à Poitiers et chercheur associé au laboratoire ruralité de l'Université de Poitiers. Et Rémi Marion, expert scientifique, spécialiste des régions polaires, consultant pour l'association Pôle Action. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À très bientôt.